vendredi 13 et le samedi 21 septembre, de 22h à 2h du matin, Radio en Construction déploie son studio mobile au cœur de l'ozosphère et de son électronique district dans le quartier Laiterie. Récits des nuits électroniques, regards posés sur le quartier et les 20 ans de la manifestation. En direct sur le 90.7 et sur radioenconstruction.com.
Maxime Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Votre conférence d'aujourd'hui porte sur la dance music engagée. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des origines de la techno et de la house ?
C'est une histoire assez connue maintenant, donc c'est compliqué de rentrer dans tous les détails parce qu'elle est hyper riche, si on veut résumer, c'est deux cultures qui sont nées assez conjointement en fait au début des années 80, qui sont un peu des héritages de la disco, du funk et d'autres musiques essentiellement black en fait. Après il y a aussi des théoriciens comme quoi ça remonte aussi à la musique industrielle du début du 20e siècle, mais en tout cas c'est deux mouvements qui sont apparus au début des années 80, qui sont popularisés vraiment dans la deuxième partie des années 80, avec des artistes, des collectifs qui ont commencé à émerger comme une grande résistance à Détroit, parce que c'est vraiment aux États-Unis, notamment Détroit ou Chicago, et New York qui a suivi un peu le mouvement, où ces deux cultures, la techno à Détroit et la house à Chicago, qui ont porté un peu ces deux phénomènes-là.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, le public français qui va en soirée techno ou house, a-t-il conscience de l'impact social de cette musique qu'elle a pu avoir au XXe siècle ?
L'impact social, je pense, après l'impact peut-être politique ou engagé, c'est plus compliqué, parce que c'est vrai que historiquement, quand on regarde des documentaires ou des reportages, ou même quand on lit des livres, c'est vrai qu'on ne met pas forcément cet aspect-là en avant. On les résume à des musiques, et en fait, comme il y a peu de langage, ou pas du tout de langage dans la techno et la house, on pense que c'est des musiques qui ne peuvent pas être révolutionnaires, ou alors qui peuvent avoir un avis social, ou une démarche sociale sur le monde. Donc je pense qu'on a conscience, les nouvelles générations conscience un peu de ça, mais qu'il y a quand même encore un travail à accomplir pour entretenir quand même et puis promulguer cet aspect-là des musiques électroniques également, pas seulement un aspect festif non plus.
Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la musique électronique actuelle, elle est encore engagée ?
Ah oui, plus que jamais. En fait, pas plus que jamais, mais il suffit de regarder, rien que si on prend juste un versant des musiques électroniques, et notamment les femmes en fait qui ont de plus en plus voix au chapitre en fait dans les musiques électroniques, et c'est une bonne chose, notamment même en termes d'équilibre financier quand elles sont programmées dans des festivals, mais elles sont aussi beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus, je pense à Paula Temple ou Elena Hoff qui ont même Black Madonna qui ont leur propre label qui milite pour l'école LGBT, donc c'est des artistes qui sont très 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 engagés. Elena Hoff dans une interview pour son premier album, je crois, disait qu'elle voulait détruire la société. Donc la démarche engagée est toujours bien, bien réelle, et elle est toujours aussi très importante quand on voit que même à Paris, un club comme La Concrète a fermé dernièrement. Enfin, c'est important quand même de continuer à promulguer, à défendre non seulement les musiques électroniques, mais aussi à se servir de ce genre musical pour défendre des valeurs sociales ou politiques ou autres, quoi.
Avec l'évolution des nouvelles technologies, quelle est selon vous l'évolution de la dance music dans les prochaines années ?
Ça c'est difficile à dire, je pense. Je pense qu'on peut s'attendre à... Moi j'imagine toujours une musique de plus en plus hybride en fait, de toute façon. Parce qu'on le voit là actuellement, il y a un mouvement qu'on appelle K-House, qui vient de Corée, et à travers des artistes comme Peggy Gou, Park Hae-jin ou Yaeji, et qui ont une importance, pas un Peggy Gou, qui a une importance de plus en plus énorme sur la scène house. Et je pense que c'est justement, au-delà de l'aspect stylistique, je pense que ça va être des pays qui vont prendre une importance de plus en plus forte, des scènes, puisque les musiques électroniques vont plus se limiter à l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Je pense qu'il y a vraiment des pays dont on s'attend peu. Même l'Afrique du Sud, ces dernières années, a beaucoup fait parler. Le pays a fait beaucoup parler de lui pour ses qualités de musique électronique. Donc là, il y a la Corée du Sud. Je pense que c'est surtout ça à quoi il faut s'attendre ces prochaines années. C'est vraiment l'émergence de nouvelles scènes qui vont tout mélanger, qui vont mélanger toutes leurs influences, et qui ça va enrichir encore plus la scène électro, quoi.
Justement, quel est le rôle d'Internet par rapport à ces nouvelles scènes, ces émergences, par exemple les pays on va dire d'Afrique qui ont une nouvelle scène qui se crée, ou les pays de toutes ces nouvelles musiques qui viennent de chez nous grâce à Internet, à mon avis, c'est pas les CD qui pouvaient faire ça. Donc justement, quel est le rôle? Est-ce que c'est un rôle qui fait découvrir, ou alors c'est quelque chose, c'est des scènes déjà connues là-bas qui viennent chez nous?
En fait, ouais, je pense qu'Internet permet à ces gens-là, à ces artistes-là, forcément d'émerger. Je pense, pour prendre l'exemple de Park Hae-jin, là, qui est une jeune artiste sud-coréenne que moi j'apprécie énormément. Elle mixe dans, je sais plus le nom du club, je sais plus à Séoul, mais c'est un club qui est hyper réputé là-bas. Et je pense qu'en fait, d'avoir cette résidence dans ce club-là et du coup d'être invité petit à petit sur des festivals qui, comme là jouer au Dour Festival à Bruxelles, elle est hyper présente en Europe, elle a été hyper présente en Europe pendant l'été. Je pense que du coup d'être résidente dans ce genre de club chez eux, ça attire l'œil des programmateurs, ça les fait jouer en Europe ou aux États-Unis, et du coup leur nom commence à circuler. On les programme dans des boiler rooms, il y a des programmations qui se créent un peu partout, et aussi Internet qui du coup permet par exemple dans le cas de boiler room d'être les vidéos sont visibles sur YouTube, donc ça accumule, et puis après le bouche à oreille se fait. Et je pense que c'est vraiment, oui, c'est l'ère digitale dans laquelle on vit permet à ces artistes-là de plus en plus d'émerger. C'est vrai que dans les années 90, je pense que ça aurait été compliqué pour ces artistes-là d'émerger d'Afrique du Sud, de Séoul, du Japon, parce qu'on était les imports, les vinyles venaient souvent des États-Unis ou d'Angleterre, donc c'était plus compliqué pour ces pays-là de se faire entendre. Aujourd'hui, ça équilibre un peu plus les choses.
Ouais, donc Internet ne nous fait pas nous découvrir que Gangnam Style.
Non, pas du tout. Non. Ni ne popularise pas uniquement que le DM grand public. Il y a énormément de choses derrière. Ouais.
Par votre parcours et l'analyse journalistique que vous avez pu faire sur le rap, qu'est-ce que vous pensez de la musique hip-hop actuellement en France? Est-ce qu'on peut en avoir pour tous les goûts? Est-ce qu'elle est forcément engagée aujourd'hui? Quel est votre avis là-dessus?
Ça rejoint un peu le phénomène, la tendance sur la musique électronique, c'est que en France et même ailleurs, la scène rap est plus que jamais hyper ouverte et hyper hybride, et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, qu'on aime la trap, qu'on aime le cloud rap à la PNL, qu'on aime les musiques un peu plus la trap mais avec des inclinaisons africaines comme Niska ou MHD ou même Kobalade, ou alors du rap à l'ancienne, avec du boom bap comme Lucy Bukowski, même Nekfeu et Alpha One, leurs derniers albums sont clairement plus dans une tradition rap qu'autre chose. Je pense qu'il y a, c'est plus riche que jamais. Il y a toujours de l'engagement. Après, ce qui est bien aussi, c'est que les artistes, les rappeurs ne se limitent plus non plus à ça. Je pense qu'ils ont compris. On a toujours tenté de renfermer le rap dans cette veine-là. Et c'est vrai que les rappeurs, peut-être par automatisme, mais parce qu'en fait, en France, le problème, c'est que les deux groupes, les deux groupes qui ont porté le mouvement dans les années 90, voire trois, c'était NTM, Assassin, IAM. Et c'est vrai que c'était trois groupes qui étaient quand même assez engagés dans leurs textes. Et je pense qu'il y a eu un automatisme, un mimétisme un peu inconscient de se dire le rap doit se faire comme ça. Et aujourd'hui, je pense que des rappeurs qui ont grandi plus avec Rof ou Booba, ou alors les vraiment plus jeunes qui ont grandi avec la section d'assaut au début des années 2010, savent et osent faire d'autres. Rapper autre chose que juste. Que juste des textes politiques, et c'est très bien, parce que je pense que un mouvement musical ne doit pas se limiter à certains textes.
Et du coup, est-ce que Tupac est encore vivant selon vous?
Non, malheureusement. Et même pour la petite anecdote, je suis même pendant le cas du bouquin, je suis parti à Los Angeles pour aller sur place, et j'en ai profité pour aller au festival Coachella. Et en fait, là où je dormais, c'est un hasard total, mais en même temps c'est assez fou, là où je dormais à Palm Springs, c'était un Airbnb, et il y avait deux amis qui dormaient dans une autre chambre en face de la mienne, et l'un des deux, en fait, la meilleure amie de sa femme était l'infirmière qui a soigné Tupac, qui a assisté Tupac dans ses dernières heures. Donc Tupac est bel et bien décédé, malheureusement, mais le mythe vit toujours, et c'est la marque des grands, finalement. Et finalement, il est au même niveau qu'Elvis ou d'autres sur ces mythes-là qui perdurent.
Actuellement, quel est ton style de musique que tu préfères dans la musique électronique ?
Dans la musique électronique, moi je pense que j'ai toujours eu une fibre un peu plus house, je pense. Alors après, en soirée, ça m'empêchera pas de danser sur n'importe, enfin techno, deep house, minimal ou autre, mais je pense que la house, c'est ce qui me fait rêver un peu plus, je pense, de tout temps. En fait, la house de Chicago, par exemple, c'est quelque chose que j'adore vraiment. C'est quelque chose, la house de Chicago, c'est un style qui a été importé à Manchester à la fin des années 80, à la Hacienda, par le label Factory Records, et j'adore cette scène aussi de Manchester. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de Peggy Goo. Bah, voilà, c'est vraiment des artistes qui je trouve font une house hyper maline, et voilà, moi c'est vraiment dans ça que je m'éclate le plus, mais voilà, Elena Hoff, Irène Dresel, pour rester sur les femmes, Chloé en France, que je suis des artistes que je trouve très 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 fortes également, et je prends plaisir aussi à écouter.
Quels sont les derniers albums que vous avez achetés?
Alors ça c'est une question difficile parce que
où télécharger?
Alors bah en fait il y en a un qui date un peu, mais justement on parlait de rap et je l'ai mentionné, mais je pense qu'il est sorti en octobre 2018, donc il commence à dater, mais Alpha One, je pense que je l'écoute toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, une main lave l'autre, quoi, que je trouve un chef-d'œuvre absolu, sans défaut. Après en électro, là il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Park Hye-jin, justement, parce qu'elle a fait deux morceaux avec lui sur un maxi. C'est un artiste qui s'appelle Baltra, et c'est, voilà, pour le coup c'est un mélange, vraiment son album est vraiment un mélange de techno et d'house. Parfois c'est minimal, parfois c'est assez ambiante, parfois c'est plus clubbing, on va dire, mais par contre c'est jamais fourre-tout, enfin je trouve que c'est vraiment un album qui se tient. Et sinon, en total autre sujet, mais en même temps c'est un artiste qui a pas mal puisé aussi dans les musiques électroniques. Et c'est le dernier album de Rachita, par exemple, que je trouve excellent. Donc voilà, c'est un peu les trois qui me viennent en tête, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais en tout cas, ceux-là sont assez solides.
Est-ce qu'il y a un des artistes de la programmation de l'Ososphère qui puisse vous intéresser?
Donc ouais, il y a Paula Temple, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui je trouve en plus extrêmement forte en live. C'est quand même des sacrés claques, le son va très très fort. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la techno. Enfin, j'avais écrit sur elle, j'avais dit que c'était de la techno qui tabasse, et je pense qu'en live ça se vérifie bien. Et il y a Arnaud Robotini aussi, qui est, pour le coup lui aussi est pas mal niveau house, puis c'est quelqu'un qui touche à tout, et j'avais adoré aussi la BO qu'il avait fait pour 120 battements par minute, le film qui était sorti je crois l'année dernière, qui a été césarisé, et dont je parlerai aussi dans la conférence sur les musiques de films avec Yuxek. Donc c'est deux, puis Arnaud Robotini est aussi très bon en DJ set, je sais pas si là il est en live ou DJ set, mais c'est un très bon DJ également.
Et pour finir, vous écrivez dans la presse écrite, mais dans la presse numérique. Vous avez déjà publié 3 livres. Quel est votre support favori pour parler musique ?
C'est forcément le bouquin, mais qui n'est pas adapté à tous les sujets non plus. Les bouquins, ce qui est bien, c'est que ça permet de développer un sujet sur le vraiment très très long format, d'essayer d'installer un style, en fait, de pouvoir, par exemple le bouquin de Tupac, j'ai essayé de faire un truc très romancé finalement, même si tout est véridique, mais enfin tout est vrai dans sa vie, mais c'est de le romancer parce que sa vie s'y prête en plus. Mais après bien sûr ce serait compliqué, il y a des sujets qui se prêtent pas à des 300 pages non plus, quoi. Moi ce que j'aime bien, oui, c'est vraiment les ouvrages et on va dire le format reportage, que je trouve assez intéressant, où là on peut vraiment être en immersion pour une scène, ou alors accompagner un artiste sur plusieurs jours. Ça c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, et c'est là où je m'éclate le plus, parce qu'en plus le format reportage permet aussi d'écrire sur la longueur, et du coup vraiment de plonger dans un élément. Je pense par exemple, c'est pas un papier que j'ai fait, mais justement c'est un papier que j'ai lu là dernièrement dans le magazine Society sur La Station à Paris, qui est l'un des derniers bastions de la musique underground à Paris, et le reportage qu'on a fait Society est hyper impressionnant, de 5-6 pages, c'est pour se rendre compte qu'il y a encore des musiques underground et qu'il y a encore des lieux à Paris pour défendre une musique avec des musiques électroniques comme ça. C'est hyper enrichissant de lire ce genre de papier là.